Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Salut à tous, aujourd'hui à Phoenix Podcast, on a démystifié le mythe des glucides. Est-ce que ça fait prendre plus de poids que les autres macronutriments? On a parlé de la lipogenèse de nouveau, des failles du modèle glucide-insuline, on a parlé des différentes sources de glucides, on a donné des études face à ça, donc écoutez ça, bon podcast à tous.
Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie.
Salut à tous, bienvenue à Phoenix Podcast, épisode 7 de la saison 2 aujourd'hui. Toujours en compagnie de mon associé Jay.
Hello tout le monde.
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien, c'est comme l'intro classique qu'on dit à chaque fois, ça va toujours bien, on se pose tout le temps la question comment ça va, puis c'est toujours ça, fait, c'est bien correct. Ça va bien, on est bien content. Aujourd'hui, on parle des glucides, mais pas nécessairement juste des glucides, mais principalement du fait de... Est-ce que c'est vrai que les glucides font prendre plus de poids que les autres macronutriments? On entend tout le temps parler de genre, ah, je vais couper les pains, pâtes, patates, les fruits, tout le kit. Puis les gens ont peur des glucides. C'est comme le démon pour beaucoup de personnes. Et là, on parle de perte de poids parce qu'on sait que les athlètes, les personnes qui bougent, doivent en consommer en très haute quantité selon chaque personne, évidemment. Mais pour plusieurs personnes, ils ont peur de consommer des glucides. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de démystifier ce mythe-là, justement, des glucides.
Vas-y. Je peux t'embarquer avec une petite histoire avant que tu embarques dans le premier sujet pour vraiment bien faire une intro. Ce qui est intéressant avec les glucides, c'est que si tu remontes à dans les années 1940-1950, la population était vraiment pas en surpoids. On avait beaucoup de personnes qui étaient en super de bonne santé. Oui, l'espérance de vie était moins grande. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas toute la médecine et les développements au niveau des justement les carences alimentaires et tout. On connaissait pas la machine humaine comme on la sait maintenant. Fait que les gens avaient moins une espérance de vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du poids, les gens n'avaient pas nécessairement de surpoids dans ce temps-là. Puis... ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à avoir l'ascension. J'en avais déjà parlé dans un podcast précédent. Il a commencé à avoir l'ascension des fast-foods puis de tous ces, on va dire, repas emballés très rapides-là, la transformation et l'industrialisation alimentaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on a commencé à avoir du monde prendre du poids considérablement. Puis à ce moment-là, ben l'ascension du sucre a fait... effet. Elle était dans la société, puis là, le monde a commencé à consommer des liqueurs, à consommer des frites transformées, des aliments très riches en glucides. Puis là, il a commencé à avoir de l'obésité, il a commencé à avoir des hausses de crise cardiaque et c'était rendu la première cause mondiale de décès. Et ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que les scientifiques, dans le temps, qui avaient très peu de données, cherchaient un coupable. Fait qu'ils ont commencé à pointer du doigt le cholestérol et les gras, principalement. Parce que le cholestérol, qui était, on va dire, dans 90 % du temps, une des causes des crises de cœur et tout, ou en tout cas, c'était les causes qu'ils trouvaient, bien, en tant que tel, ils ont trouvé ça dans les corps gras, comme la viande, comme tous les produits contenant du gras. Fait que là, il a commencé à avoir, on va dire, on a commencé à démoniser les gras et on a commencé à dire des produits sans gras. Et là, c'était l'ascension des produits très riches en sucre. Et qu'est-ce qui s'est passé des années 1950-60 jusqu'à 2024 aujourd'hui? On n'a jamais eu autant de personnes en surpoids, jamais eu autant de cancers, de diabète, de maladies dégénératives, peu importe lesquels types. Fait que là, les gens, on s'en va de plus en plus dans un autre opposé. Puis c'est ça un peu le sujet qu'on veut parler aujourd'hui. Parce qu'on se retrouve dans une phase où ça fait 70-80 ans qu'on mange des glucides. Puis je pense que l'être humain, le mal fait. T'sais, on n'a pas nécessairement bien fait ça. Puis là, on se retrouve où c'est l'inverse. On commence à manger de plus en plus de lipides et on démonise les glucides. Puis nous autres, aujourd'hui, on veut essayer de mettre de la clarté dans ça, de comment bien les utiliser, c'est quoi les effets et toutes les kits. Fait que je voulais juste faire cette intro-là parce qu'il y a comme eu un gros move sociétal depuis les années 1950-1960. Puis c'est vraiment une programmation que la population a eue. Puis initialement, c'est les gouvernements qui avaient poussé ça. On va dire manger beaucoup de glucides, pain, pâte, patate. Hein, c'était du 5 recommandations de féculents par jour. C'était 3 fruits. Ça nous faisait 50, 60, 70% de notre apport quotidien en glucides par jour. Les gens ont mangé ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On va l'expliquer ici aujourd'hui. Mmh. On va expliquer plusieurs affaires là-dessus.
Parce que si tu prends, mettons, 60% de glucides, mais tu es un athlète, tant mieux. C'est ce que tu devrais faire. T'sais. Mais le problème, c'est parce que tu regardes la population générale, puis j'ai rien contre ça, mais il n'y a pas tout le monde qui sont des athlètes. Là.
Si tu es Ginette, 75 ans, très sédentaire, c'est pas toi qui dois manger 70% de glucides, mais malheureusement, en ce moment, c'est un peu le cas. Mmh. Fait que démystifions ça, sans embarquons dans le premier sujet, mais je voulais juste commencer avec cette petite histoire-là. Je trouvais qu'elle était bien placée, puis ça ramène.
Moi, je suis bien fervent du. Équilibre, mettons, dans le sens que, pas nécessairement juste équilibre lipides-glucides, mais équilibre dans le sens que tu devrais pas mettons, juste manger des glucides ou juste manger des lipides, exemple, faire du keto, mais bien, parce que, tu sais, la plupart du temps, même là, si tu poses la question à quelqu'un, en fait, c'est tout le temps, ça revient tout le temps.
Tout le temps, même affaire.
C'est, est-ce que, mettons, quelqu'un vient te voir, je fais du keto. Keto, c'est de manger pas de glucides, pas de sucre, ou du moins un très, très, très faible pourcentage.
5, je pense que c'est 5 % de glucides, tu peux tomber en cette eau.
Puis ton 5 % provient des légumes principalement. Puis là, tu dis OK, puis ton keto, est-ce que tu aimes ça, faire ça? Non, je déteste ça. Mais pourquoi tu le fais? J'ai perdu du poids. OK, mais là, tu penses que tu as perdu du poids à cause du keto? Ouais, OK. Bon, on va essayer de démystifier ça un petit peu parce que tu peux perdre du poids à faire du keto, c'est pas ça le point. Puis même que tu vas probablement perdre du poids. Parce que tu arrêtes de manger de la scrap, comme on disait tantôt.
Tu coupes
mais c'est pas nécessairement le keto qui te fait perdre du poids plus que d'autres choses. Parce que, tu sais, je le dis directement, je vais en reparler tantôt. Puis vous savez, ça fait longtemps, c'est pour ceux qui nous suivent. Tout est une question de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort en termes caloriques. Fait que si tu as un déficit calorique, tu perds du poids. Indépendamment que si ton insuline est élevée, on va rentrer là-dedans. Fait que, premièrement, je voulais rentrer dans les détails de ce qui est la lipogenèse de nouveau. Pour ceux que vous allez peut-être voir des fois, je l'ai pris en note parce qu'ils appellent ça le DNL, en parenthèse, c'est un acronyme pour de novo lipogenesis, qui est la lipogenèse de nouveau en anglais, on voit souvent DNL. Et la lipogenèse de nouveau, dans le fond, c'est quoi? C'est que le principe, quand tu manges des glucides, tu utilises le glucose comme énergie. Si exemple, n'importe quel exemple, tu te réveilles le matin, tu manges du pain, puis là tu t'en vas t'entraîner, tu vas courir. Ben là, tu vas utiliser le glucose. Les glucides vont se transformer dans ton sang sous forme de glucose, qui est la source d'énergie première qu'on va utiliser pour bouger. Et là, tu vas aller courir. Si tu manges du pain, tu vas pas courir. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir du glucose dans le sang, tu l'utiliseras pas. Le corps va dire, hey, je l'ai, mais je l'utilise pas. Il va le stocker. Il va le stocker de ce qu'on appelle du glycogène. Okay? C'est des formes de glycogène, principalement au niveau du foie et au niveau des muscles. Le foie a beaucoup plus de place que les muscles, by the way. Dépendamment à quel point tu as de la masse musculaire, par contre. Fait que ça, c'est comment fonctionne le stockage des glucides. Et là, la problématique, ben en fait, c'est pas tant une problématique, je parle plus de l'hypogenèse de nouveau, comment ça fonctionne, c'est que si tu arrives au stade que tes réserves de glycogène, parce que c'est pas illimité en pensant des réserves de glycogène, il y a des limites, quand elles sont pleines, mais que tu continues à manger des glucides, qu'est-ce qui va se passer? L'excédent de glucose qui ne rentre plus dans tes réserves de glycogène va se transformer en acide gras et va aller stocker en ce qu'on appelle des triglycérides. Puis c'est le principe de la lipogenèse de nouveau. Là, vous allez dire, ben OK, mais là, tu dis le contraire du but du live, du podcast, là, c'est comme c'est de même que tu prends du gras. Oui, tu peux créer du gras avec de la lipogenèse de nouveau. Mais check bien ça. Le concept que je viens de t'expliquer, je vais le décortiquer. Premièrement, consommation de glucides, décomposant de glucose dans le sang. Je l'ai dit. Deuxièmement, excès de glucose. Lorsque les réserves de glycogène sont pleines dans le foie et les muscles, l'excès de glucose est converti en acide gras. Troisièmement, synthèse des acides gras. Les acides gras sont ensuite transformés en triglycérides. Je l'ai dit. Et quatrièmement, stockage. Les triglycérides sont stockés dans les adipocytes.
Donc, on pourrait dire
qui sont la graisse, littéralement. Puis c'est là qu'on pourrait dire, ben justement, c'est le même qu'on prend du gras. Par contre, je l'ai mis en majuscule. Il est en majuscule. Par contre, plusieurs études montrent que la lipogenèse de nouveau contribue très faiblement au stockage des graisses. Par exemple, je vais la lire, OK? Une étude de suralimentation. Quand on dit suralimentation, c'est que, je vais le dire juste après, mais ils ont donné 50 % de calories de plus que le métabolisme total des participants de l'étude. Fait que si, exemple, tu brûles, on va dire, 2000 calories totales dans une journée, ben 50 % c'est 1000, donc réellement, t'en mangeais 3000. C'est ce qu'ils ont donné.
Fait que t'es en surplus calorique monstrueux.
Beaucoup, là. Ouais, un gros surplus calorique. Fait que, par exemple, une étude de suralimentation publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré que lorsque des participants étaient nourris avec un excédent calorique de 50 % provenant uniquement de graisse ou de glucides, le stockage des graisses provenait majoritairement des lipides consommés. En moyenne, les participants stockaient, là c'est là que c'est fou, ils stockaient en moyenne 282 grammes de graisse par jour, OK? Dont seulement 4 grammes provenaient de la conversion des glucides en graisse, donc la lipogenèse de nouveau, tandis que 278 grammes provenaient directement des lipides ingérés.
Intéressant.
Fait que c'est super intéressant. Puis by the way, tu sais, pour les besoins, moi je suis bien calcul dans ces affaires-là, je trouve ça nice. 282 grammes de graisse stockée par jour, réellement, chaque gramme de graisse ou de lipides, c'est 9 calories. Fait que là, il faudrait que tu fasses 9 fois 282 grammes, qui ferait quoi? 2900 à peu près? 2000 quelque chose? On va dire 2000, on fait un chiffron. Tu aurais peut-être un 2000 quelque chose calories que tu stockais par jour. C'est énorme, là. C'est là qu'on voit que 50 % de surplus calorique, c'est beaucoup. Mais le point, c'est qu'il y a seulement 4 grammes qui provenaient de la conversion de la lipogenèse de nouveau, donc des glucides. Les 278 autres grammes provenaient des lipides directement ingérés. Fait que tu fais comme, OK, oui, ça existe à l'hypogenèse de nouveau, puis il y a un concept que si tu as trop de glucose et que tes réserves de glycogène sont pleines, le surplus va être transformé en graisse, mais très minime par rapport à ce que les études vont démontrer.
Dans le fond, de ce que je peux comprendre, c'est que si, exemple, tu consommes 1000 calories supplémentaires, tu as un surplus de 1000 calories. Fait qu'à la place de 2000, tu en manges 3000. Le corps, la première source d'énergie qu'il aime, c'est le glucose. Ça veut dire que lui, en premier lieu, il va aller utiliser le glucose. Fait qu'il va pas vouloir aller puiser dedans les gras que tu viens de consommer, les lipides. Il va aller premièrement dans ton glucose. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que la majorité du surplus calorique qui a été consommé, le corps va avoir priorisé principalement le glucose. Fait que c'est la raison probable du pourquoi il est pas allé utiliser, parce qu'au final, on n'arrête pas de le dire, calorie in, calorie out, c'est 3000 calories, que ce soit en glucides ou en lipides, c'est le surplus calorique qui va quand même t'amener à prendre du poids. Mais dans ça ici, le corps a pas d'intérêt à prendre le lipide et aller le convertir par la lipogenèse en glucides, parce qu'il y a déjà des glucides. Fait qu'il va aller utiliser le surplus de glucides en premier lieu, et ensuite de ça, aller stocker le surplus de lipides.
C'est un peu comme ça que je le fond, oui, puis dans le fond, dis-toi que les lipides, c'est beaucoup plus dur à métaboliser.
Ouais.
Parce que le glucose, tu l'utilises direct comme source d'énergie.
Puis le lipide, tu le convertis.
Ouais, tu le convertis en acide gras.
Exact.
Puis là, après ça, tu peux l'utiliser comme source d'énergie.
Exact.
Mais le glucose, c'est automatique. Puis les réserves de glycogène, quand tu dégrades, ça se transforme pas nécessairement en acide gras, ça se transforme en glucose. Donc, automatiquement, tu as du sucre direct pour utiliser comme énergie.
Fait que dans le fond, de ce que je peux comprendre, si, admettons, face à l'étude que tu viens de citer, si tu as un surplus calorique de 1000 calories, inévitablement, tu vas prendre du poids. Inévitable.
Ouais, peu importe.
Mais
quoi.
Que ce soit avec des lipides ou avec des glucides, tu as quasiment moins de chances de prendre du gras avec les glucides qu'avec les lipides.
Ben, c'est quoi? C'est bon ce que tu dis, parce que je ne l'ai pas sorti. Mais j'avais vu quelque chose par rapport à ça. Et ce qu'il avait démontré, c'est que, puis là, on en parle gros de ça, là, de calories in, calories out, puis il disait à calories et protéines égales, les stratégies, peu importe ce qui se passe au niveau des glucides et des lipides, les personnes prenaient le même poids indépendamment des, que ce soit glucides ou lipides qu'il y avait en surplus.
Je l'avais vu, ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais parlé de ça, mais dans cette méta-analyse-là, ce qu'il avait démontré, c'était même un léger avantage aux stratégies qui avaient plus de glucides par rapport aux lipides. Là, je ne sais pas pourquoi, c'est quoi la raison exactement, mais j'ai un flash dans ma tête que je me dirais, tu sais, on avait déjà parlé à un moment donné, je pense qu'on a parlé dans un podcast, anyway, l'effet thermique des aliments.
Ouais.
Puis tu sais, l'effet thermique des glucides est plus élevé que les lipides.
Ouais.
Fait qu'en partant à calories égales, l'effet thermique, ben exactement. Fait que tu sais, probablement que le lien, il doit avoir un lien à partir de là.
Moi, ce que je verrais, c'est, oui, la thermogenic effect of food, ce que tu viens de citer, ça se peut que ce soit le temps d'assimilation et l'indice glycémique, les fibres, parce que dans tes lipides, il y a très peu de fibres, très rarement.
Toi, tu vas en parler justement
tantôt. On va en parler tantôt. Puis, tu sais, il y a plusieurs petits facteurs. Fait que, tu sais, les glucides en soi, déjà là, on est capable de dire qu'ils sont pas plus mauvais que les lipides. Ils ont peut-être des fonctions différentes et il faut être capable de l'utiliser d'une façon différente. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, ton étude.
Check ça, puis ça fait un lien justement sur vraiment comment ça fonctionne. Tu sais, j'ai parlé de la lipogenèse de nouveau, que l'étude démontrait que c'était pas énorme, que ça faisait du gras, mais que c'était pas énorme en termes de stockage versus les lipides. Et là, le deuxième point, c'est l'oxydation, le stockage des graisses. Et là, c'est super intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps utilise toujours la source d'énergie qui est la plus abondante dans le corps. Mm. Fait que si tu manges plus de glucides, le corps utilise plus de glucides. Inversement, si tu manges plus de lipides, il utilise plus de lipides. C'est toujours le bilan calorique total qui fait la différence. On l'avait dit, calories in, calories out. Mais check ça. Je vais prendre glucides et lipides. Quand, puis je vais le lire parce que c'est quand même assez touché. Essayez de me suivre dans la situation. On peut répondre aux commentaires s'il y a des questions. Là, mais quand on mange plus de glucides, je viens de le dire, le corps utilise principalement ces glucides-là comme source d'énergie et donc brûle moins de graisse.
Il n'y a pas d'intérêt.
C'est évident. Okay? Il n'y a pas d'intérêt.
De l'argent dans le compte courant, ça ne va pas dans le compte épargne.
Résultat, les graisses alimentaires non utilisées sont potentiellement stockées, mais le corps limite sa conversion des glucides en graisse. Donc, il limite la lipogenèse de nouveau que j'ai dit tantôt, il n'y en a pas beaucoup. Et ne stocke que peu de graisse à partir des glucides. Si tu manges plus de lipides, donc deuxième exemple, si on mange plus de lipides et moins de glucides, le corps utilise les graisses comme énergie, mais en stocke aussi davantage. Donc, le bilan énergétique total, c'est ce qui fait la différence. Le point, c'est que si tu manges plus de lipides, oui, au bout de la ligne, tu vas utiliser plus de graisse comme énergie, mais tu vas aussi en stocker plus. Et si tu manges plus de glucides, tu vas utiliser plus de glucides, mais tu vas stocker moins de graisse. Fait qu'au bout de la ligne, c'est toujours pas nécessairement si tu manges des glucides ou des lipides. Indépendamment un de l'autre, c'est qu'est-ce qu'il va avoir comme calories à la fin de la journée. Mm-hmm. Et ça, ce que je viens de dire là, c'est littéralement le concept du podcast qu'on voulait faire parce que arrêtez d'avoir peur des glucides, utilisez-les de façon intelligente par rapport à votre mode de vie. Mais vraiment, vraiment intéressant. Jude, tu voulais passer, ben, à moins que tu aies un point là-dessus. Ben, là, mais
j'en viens à ça. Un moment donné, j'étais allé, je me souviens, avec notre ancien associé, on était allé voir une sommité mondiale à composition corporelle que s'il y a des coachs qui nous écoutent en ce moment, vont très bien savoir c'est qui. Charles Poliquin. Puis Charles Poliquin, en tant que tel, un moment donné, en conférence, il y avait un coach, je me souviens, ce coach-là avait posé la question à travers tout le monde parce que c'était comme freestyle. On pouvait poser des questions à Charles Poliquin, puis lui nous répondait. Puis tu sais, c'était cru, là. C'était très drastique, puis j'aimais sa façon de parler parce qu'il ne tournait pas autour du pot puis il n'essayait pas de te sortir des affaires scientifiques. Il te sortait ce qui était fonctionnel. Voici comment tu dois faire, voici ça. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'un moment donné, le coach, dans le fond, avait levé sa main, il avait dit « Charles, tout le monde a peur des glucides maintenant. Là, on s'en va dans un monde de keto, de jeûne, de tout. Moi, je suis un entraîneur, je suis un coach, puis ça fait longtemps que je coach du monde, puis non-stop, j'arrête pas de leur dire de ne pas avoir peur de glucides. Mais le monde continue de se faire bombarder sur le marché, puis on va parler tantôt. Mais il arrête pas de se faire bombarder sur le marché. Pain pas de patates, c'est dangereux, telle affaire, on va prendre du poids. Si tu manges une patate, tu vas reprendre tout ton poids. » Il avait dit, c'est où le juste milieu là-dedans? Comment qu'on démystifie ça? Puis Charles, avec son ton comme d'habitude, il nous avait dit, on va enlever tout le bullshit autour de ça. Puis il avait utilisé une seule phrase. Puis ça m'avait vraiment rentré dedans. Il avait dit, si, parce que les glucides, le but, c'est une source d'énergie première du corps. C'est l'énergie préférée que le corps va vouloir. Fait que si tu manges des protéines, des glucides ou des lipides, le corps va toujours utiliser les glucides en premier lieu pour aller faire ta dépense énergétique. Fait que si, puis il nous avait dit ça de même, si je m'en vais monter le Machu Picchu pendant 7 heures de temps en montagne, 35 degrés, que je vais dépenser 1000 calories dans cette journée-là, puis qu'après ça, je m'en vais descendre en 6 heures la pente. Cette journée-là, j'ai brûlé un total de 1800 à 2000 calories. Je suis claqué. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie? Oui. Est-ce que j'ai le droit de me permettre 2 tranches de pain le matin, avec peut-être un petit griot comme collation, une salade de patates au dîner, puis peut-être un spaghetti pour souper? Impérativement. Parce que je vais tellement avoir dépensé d'énergie que le but premier, ce serait de rentrer de l'énergie dans mon organisme. Je ne suis pas en phase de récupération, de gestion hormonale, quoi que ce soit. Je suis en production énergétique pour être capable de faire ce que j'ai à faire. C'est le lendemain que je vais devoir récupérer. Fait que, qu'est-ce qu'il avait expliqué? C'est le lendemain, par contre, je m'en vais m'évacher devant Netflix ou devant la TV, qu'il avait dit, puis je fais absolument rien, je suis une plante verte. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie cette journée-là? D'énergie biodisponible? Non. Fait qu'il avait dit, cette journée-là, je ne mériterais pas de manger 2 tranches de pain le matin avec un griot, avec une salade de patates, avec un spaghetti, parce que cette énergie-là ne sera pas utilisée de la même façon que le lendemain, la veille, quand je suis allé monter le Machu Picchu. Fait que qu'est-ce qu'il avait dit, c'est mérite tes glucides. Puis je l'avais déjà cité dans la première saison. Mérite tes glucides. Un athlète de très haut niveau devrait manger beaucoup de glucides parce que cette énergie-là va être tellement métabolisée facilement et régulièrement qu'il n'aura même pas tendance à stocker. Puis tu sais, même s'il est en surplus calorique, il y a tellement une dépense métabolique grande qu'il y a moins de chances d'aller brûler ça, d'aller créer ça sous forme de graisse. Si tu es une personne ultra sédentaire et que ta dépense énergétique n'est même pas de 100 calories par jour, ni compris tout, est-ce que tu devrais manger beaucoup de glucides? Peut-être moins. Fait que le but dans tout ça, c'est toujours une question de calorie in, calorie out, mais au niveau de la gestion énergétique, de la gestion hormonale de l'insuline, du cortisol et de tout qu'on va parler tantôt, et aussi juste du fait d'éviter que les glucides deviennent une problématique, créer des désordres métaboliques et tout, c'est d'être capable de les utiliser par rapport à ton mode de vie. T'es sédentaire, t'en manges moins, tu priorises les fruits. T'es semi-actif, t'en manges un peu, tu priorises les fruits. T'es actif, t'en manges quand même pas mal, priorise quand même tes fruits, mais mange des glucides complexes. T'es très actif, priorise vraiment les glucides complexes, le pain, pâte, patate, les riz, etc. T'es extrêmement athlétique, genre 800 calories et plus par jour, mange principalement rien que de ça. Tu cours des marathons, tu devrais rien que manger ça. Fait que c'était super intéressant la façon qu'ils nous avaient présenté ça, parce que ça m'avait vraiment fait comprendre comment démystifier qui devrait manger les glucides. Puis je me rends compte dans ma pratique en clinique ici que la madame qui est ultra sédentaire n'aura pas nécessairement le même niveau énergétique et la même gestion de son poids très riche en glucides. Tu me suis? Mmh. Fait que, as-tu un point à rajouter là-dessus avant que j'en parle
dans l'autre? En fait, non, mais la seule affaire que je dirais, c'est que pour, tu sais, mettons, c'est exemple la madame qui est vraiment, vraiment pas tant active, là, elle dépense rien, puis qu'elle mange genre cut-off des glucides, le problème, c'est parce que c'est pas nécessairement que ça vient des glucides, mais plus du fait qu'elle va manger beaucoup de calories, tu comprends?
C'est toujours une question de calories.
Tu sais, si la madame, exemple, je dis madame, là, c'est pas péjoratif, pas du tout, là, madame, au contraire. Monsieur. Ouais, monsieur, madame, tout le monde, n'importe quoi. Tu déjeunes le matin, tu vas te prendre 2 œufs avec une tranche de pain au beurre de peanut puis une banane. Là, t'as pris des glucides, tu vas pas mourir. Là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas aller faire ta journée, t'as pas dépensé trop d'énergie, mais c'est à la fin de ta journée, ton déficit, t'as un déficit calorique, mais que t'as mangé pareil une, au pire 2 toasts le matin, ben tu vas perdre du poids pareil. Fait que tu sais, la seule affaire, c'est que si après ça, elle va se prendre du spaghetti, puis du ci, puis du ça, puis du ça, ben le problème, outre les glucides, n'est pas nécessairement des glucides, mais plus le fait que si tu manges bien des glucides, hop, impérativement, tu vas avoir un surplus calorique parce que tu vas manger beaucoup.
Ben, pas rien que ça.
Ben, attends un peu. Parce que l'affaire, c'est que si tu manges ces glucides-là, mais que tu n'as pas aucune protéine, ça se peut que tu manges beaucoup de glucides, tu sois quand même en déficit calorique, mais tu n'auras pas tes protéines. Mm-hmm. Versus si tu manges les protéines qu'il te faut, tu manges les lipides, on va dire, l'apport qu'il te faut, puis tu manges beaucoup, beaucoup de glucides, ça va être dur d'être en déficit calorique. Mm. Fait que réellement, si tu tends le fait que tu manges des glucides ou le fait que tu es en surplus calorique parce que tu manges plein d'affaires...
Ben, il y a la gestion hormonale aussi à travers tout ça. Il y a quand même pas mal d'autres aspects. Tu sais, c'est ça. Charles Poliquin, qu'est-ce qu'il avait expliqué? C'est principalement sa mentalité qu'il avait, c'était si t'es pas en bas, puis c'est quand même drastique, là. Si t'es un homme puis t'es pas en bas de 15% de gras, tu ne mérites pas de glucides. Puis le but, c'est... C'est sa mentalité, puis encore là, la science, est-ce qu'elle va débunker ça au fur et à mesure du temps?
Ben, c'est fait, c'est ça l'affaire.
Ben oui, mais ça reste quand même qu'il y a du monde qui ont des désordres métaboliques. Il va toujours en avoir.
Non, mais c'est de dire que t'es en bas de 15%, mais en haut de 15%, t'as pas de glucides, c'est quand même ridicule.
Ouais, ça
fait
en sorte.
Parce que le problème, c'est pas tant ça, ça fait en sorte que ça. Justement,
ça
le
démonise.
Point qu'on disait. Non, au contraire, ça. Ouais, c'est ça, ça démonise. Un aliment, pas un aliment, un macronutriment. Puis là, ça fait en sorte que les gens ont peur. Tu sais, moi, j'écoute Charles Paul. Moi, non, là, mais mettons, on va dire quelqu'un qui écoute Charles Poliquin puis qui voit ça, ben ça revient dans ce mythe-là.
Ouais.
Fait que c'est toujours, je suis d'accord au fait que plus que tu bouges, plus tu devrais en manger, moins que tu bouges, à un moment donné, mangeant pas trop parce que tu feras de la misère à gérer peut-être ton insuline, mais...
La bonne réponse calories dans in, calories ça, out. Calories in, calories out. Puis tu sais, ça, gangs, vous allez nous entendre le répéter, puis littéralement, saison 6, saison 8, saison 10, vous allez encore entendre la même affaire parce que ça, c'est vraiment débunké par la science, puis c'est...
Ça va être dur à battre, ça.
Ben, c'est imbattable. Fait que tu sais, t'as raison, puis on va embarquer dans le sujet de, justement, les glucides simples et du glucide concept, complexe. Mais il y a une affaire qui est intéressante aussi, c'est que les protéines et les glucides n'ont pas la même satiété. Fait que, tu sais, comme tu as cité tantôt, si tu manges tes 2 tranches de pain le matin versus si tu manges des œufs, ça se peut que 4 heures plus tard avec tes œufs, t'ailles pas faim. Ça se peut qu'une heure et demie plus tard après tes tranches de pain, t'ailles faim. Fait que c'est la cascade hormonale derrière tout ça que je vais expliquer aussi tantôt. Les types de glucides, puis tu sais, on va juste aller décrire c'est quoi en tant que tel un glucide, comment ça fonctionne, c'est quoi les types de glucides, parce que j'ai du monde en clinique ici qui me demande. Mais là, moi, je mange des patates, c'est-tu bon? Ah, mais là, une banane, moi, je pensais que c'était pas bon. Ah, mais là, moi, je mange une pomme, c'est bon, une pomme. Fait qu'ils n'ont aucune idée c'est quoi un glucide à la base. Fait qu'on va aller débunker ça. Il existe, en fait, 3 grands groupes de familles de glucides. Je les ai simplifiés parce que ça peut quand même devenir très complexe. Fait que je voulais pas embarquer dedans les polysaccharides, les oligosaccharides, tous ces choses-là. j'ai vraiment voulu simplifier. Il existe trois grandes catégories. Les glucides simples, c'est les glucides en général à une molécule, deux molécules de glucose ou sucrose ou de fructose ou peu importe quoi. Puis ça en soi, c'est comme les fruits, principalement le miel, les sucres de table, les bonbons, les fruits, les jus de fruits, le lait de vache compte à l'intérieur de ça aussi. Et on va avoir les glucides complexes. C'est le deuxième grand groupe. Ça, c'est plus pain, pâte, patate. Et en général, c'est des très longues molécules de glucose. Fait qu'à la place d'avoir une seule molécule, t'en as 20, t'en as 40, t'en as 50 rattachées ensemble. Et moi, je visualise les glucides comme t'as un peu, on va dire, des petites boules, puis t'as un Pac-Man. Puis si tu manges un glucide simple, t'as 50 fois, exemple, t'as mangé 50 grammes de sucre blanc. T'as 50 grammes individuel, une seule molécule de glucose, et t'as un Pac-Man qui en mange un, en mange un deuxième, en mange un troisième, puis ça se digère très rapidement parce qu'il n'y a pas à travailler pour les décortiquer. Mais un glucide complexe à 20, 30, 40 molécules, c'est comme si tu avais 20 molécules de glucose enchaînées ensemble. Puis ton Pac-Man doit essayer d'aller travailler la première. Ça va lui prendre beaucoup plus de temps qu'une molécule simple. Il va réussir à briser la première et là, il se dirige dans la deuxième et il continue de travailler fort pour ça. Et ce qui est différent, c'est que si tu manges, je l'ai ici, si tu manges, exemple, du miel, la biodisponibilité du sucre, de l'énergie à l'intérieur du miel, le fructose et le glucose, va être d'environ 15 à 30 minutes. Mais si tu décides de manger, exemple, un glucide complexe, du riz brun, des pâtes de riz, des choses de même qui vont être à indice glycémique un peu plus faible, ben ça se peut que ça prenne de 2 à 4 heures. Ça veut dire que ton énergie va être biodisponible entre 2 et 4 heures après consommation versus le miel. Tu prends ça one shot là, l'énergie arrive là. Fait que c'est important d'être capable de dissocier qu'il y a deux grands groupes. Et le troisième que je voulais rajouter, mais que je ne veux pas trop m'éterniser dessus, c'est les polyalcools, qui sont en tant que telles une synthétisation, on va dire en laboratoire, de glucides qui font en sorte que tu as de l'aspartame, tu as du sucralose, tu as du stevia, tu as de tout. Là, je l'ai ici. Je vais les sortir. Tu as principalement... Hein, je ne l'ai même pas. Non, je ne l'ai même pas. Je ne l'ai même pas sorti. Fait que tu as l'érythritiol, tu vas avoir les polysorbates, tu vas avoir tous tes petits produits-là. Fait que en soi... C'est vraiment important de bien comprendre qu'il y a trois grandes familles, deux principales, glucides simples, glucides complexes. Et en général, moi, comment est-ce que je dissocie ça? Comment est-ce que je les utilise? Les glucides simples, c'est principalement ceux-là que je recommande près d'une activité physique. En général, tu veux avoir un boost d'énergie instantané pour être capable d'aller faire ta répétition à ton gym ou faire ton activité physique. Fait que, exemple, avant une séance d'entraînement, une séance de course, quoi que ce soit, manger une banane, manger des dattes, manger peut-être un peu de miel. Moi, j'avais tendance à faire ça au gym, de sortir mon miel de mon sac, de m'en mettre un petit 10 grammes sur la langue. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dans les 30 prochaines minutes, je vais peut-être avoir un 40 calories de sucre rapide. Fait que le corps va pouvoir absorber et utiliser ça très, très, très rapidement. Mais si je m'en vais me claquer un gros 2 tasses de riz brun juste avant un entraînement, 15 minutes avant, qu'est-ce qui se passe? Un, l'énergie va prendre beaucoup de temps. C'est une longue chaîne de glucose. Ça va prendre beaucoup de temps avant de l'absorber. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant que je vais m'entraîner, je vais être en train de digérer ça et l'énergie ne sera même pas disponible. Au contraire, je vais même perdre de l'énergie probablement parce que je suis en train de digérer en même temps d'essayer de m'entraîner. Fait que ça, c'est super intéressant de dissocier les deux. L'énergie rapide, c'est les glucides simples et l'énergie complexe, glucides complexes, c'est ceux-là en tant que tels comme pain, riz brun, patates blanches, patates douces, légumineuses et principalement les légumes qui peuvent compter aussi à travers tout ça. L'autre chose aussi, l'impact des glucides sur la régulation de l'appétit. Parce que, honnêtement, moi, les glucides, ça m'amène personnellement une plus forte satiété, mais ça m'aide à gérer une problématique que je décèle chez beaucoup, beaucoup de ma clientèle. C'est les rages alimentaires. Le fait de manger des glucides coupe mes rages alimentaires. Puis je vais expliquer précisément le pourquoi au niveau hormonal. Si on regarde en tant que tel, il y a trois grosses choses au niveau des glucides complexes qui sont importants au niveau du contrôle de l'appétit. Trois raisons. Le premier, c'est l'index glycémique. Les gens ont peut-être déjà entendu parler de ça, mais les aliments glucidiques que vous consommez ont ce qu'on appelle un indice glycémique. Qu'est-ce que ça veut dire un indice glycémique? Un indice glycémique, c'est la rapidité à laquelle le sucre va être décortiqué dans votre sang et va être digéré, puis être disponible pour une source d'énergie. L'indice glycémique va jusqu'à un ratio de 100. Le sucre blanc pur, le glucose, et une molécule à 100. Ce qui veut dire que lorsque tu en consommes, ta liqueur ou peu importe quoi, ben l'énergie arrive quasi instantanée à l'intérieur de ton sang et tu as l'énergie biodisponible. On parle de entre 0 et 30, 45 minutes maximum, dépendamment de la génétique et de la personne. Quand on parle d'un indice glycémique de 10, de 15, de 20, de 30, comme exemple des molécules très starchy, très longues à digérer, riches en fibres, ben ça peut prendre de, on va dire, 2 à 6 heures de digestion. Fait que l'énergie a bien moins de chances de te donner un gros spike énergétique et ensuite un énorme crash si tu y vas avec un glucide complexe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais le but est d'être capable de dissocier, on va dire, les bons glucides des glucides qui sont peut-être plus adaptés aux sportifs en général.
L'index, plus au moment.
Au moment, oui, c'est ça. C'est pas au sportif, c'est au moment, t'as raison. Bonne correction. L'index glycémique. Les glucides complexes, comme ceux provenant des céréales complets, libèrent de l'énergie plus lentement, contribuant à une sensation de satiété durable et aidant au meilleur le contrôle des portions des gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si moi je décide de manger, puis tout le monde a déjà probablement vécu ça, ça fait 2-3 heures que t'as pas mangé, tu commences à avoir faim, tu t'en vas te manger une pomme. C'est fini, ça va te grogner dans le ventre 20 minutes après, puis tu vas avoir de la misère probablement à toffer jusqu'à ton souper, ça va juste avoir activé la digestion. Il y a beaucoup de fibres à l'intérieur de ça, mais ça reste quand même que c'est un indice glycémique qui est très très faible à cause des fibres. Ça va pas, tu sais, la pomme, il y a pas beaucoup de calories, mais ça va pas nécessairement soutenir pendant un X nombre de temps très long parce que l'énergie va être quand même présente rapidement. Si tu te manges une patate blanche ou une patate douce ou peu importe quoi, en fait, c'est bizarre à dire, mais la patate soutient quand même fort sur le coup, mais pas longtemps. Mais la patate douce soutient longtemps. Je veux pas trop m'entremêler. Je donne un exemple. L'index glycémique. La patate blanche cuite au four a un indice glycémique d'entre 85 et 90, dépendamment le type de cuisson et la durée de cuisson. Ce qui veut dire que ça va donner un gros coup d'énergie très rapide. Tu vas avoir un gros high d'énergie dans, on va dire, l'heure qui suit. Et ensuite, il va avoir une très grosse baisse d'énergie. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Ça se peut que tu aies des rages alimentaires. Ça se peut que tu aies le moment de satiété, parce que c'est très pesant dans le ventre. On s'entend, une patate, c'est quand même lourd. Mais ça se peut que ça se digère très rapidement à cause de l'indice glycémique. Vas-y.
Je sais pas de quoi. Parce que, tu sais, dans le fond, là, on dit que tu as les index glycémiques, puis là, tu as plus faim, tu as des rages alimentaires, ouais, dépendamment de ce que tu vas manger. Puis tu sais, ça, c'est indépendamment des calories. Ouais. Mais l'affaire, puis c'est là le lien, le but du podcast, c'est de dire... Si tu manges un sucre seulement pur, que tu as faim, tu as un gros spike d'insuline, tu as une drop d'énergie. Exemple. Ouais. Mais quand tu as la drop d'énergie, là, pis tu tombes, on va dire, vraiment extrêmement en hypoglycémie, ouais, tu as le goût de manger. C'est faut sûr que tu manges du sucre.
C'est sûr.
Fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller manger. Là. Mais réellement, c'est parce que tu reprends des calories que tu n'aurais pas pris, ouais, si tu avais mieux géré tes glucides. Mais c'est pas nécessairement les glucides qui font ça. C'est le fait que tu ne l'as pas bien géré nécessairement. Puis c'est l'excès calorique que tu vas aller faire parce que, au bout de la ligne, ton index glycémique est tout mêlé.
Hein. Exact. Ben c'est ça.
Tu comprends?
Tu sais, tantôt, ce que je citais, c'était il y existe les désordres métaboliques. Puis les désordres métaboliques, c'est le fait d'avoir une glycémie instable, c'est le fait d'avoir une mauvaise gestion des glucides, c'est le fait d'avoir un surplus de cortisol. Puis qu'est-ce qui va se passer si une personne consomme en trop grande quantité du glucose pendant trop longtemps? Parce qu'on s'entend, le principe du déficit et du surplus calorique, c'est prouvé. Mais ça reste quand même qu'une personne qui se boit 12 liqueurs par jour puis qui arrive à 2000 calories, ça se peut qu'elle soit hyperactive, qu'elle ait des désordres, qu'elle ait tout le temps des rages. Puis si cette personne-là, mettons, elle ne coûte pas de rage, elle va peut-être réussir à avoir un poids, on va dire, normal. Elle n'aura pas de masse musculaire, elle va toujours avoir faim, elle va souffrir, cette personne-là. Non, mais en termes de rage alimentaire, en termes de gestion, en termes de santé, ça ne sera pas là. Fait que les glucides, il y a quand même... Il y a un équilibre dans tout ça. C'est un peu ça le point. Il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Et si tu manges juste des glucides puis que tu ne les dépenses pas, ça se peut que tu aies un moment donné des déséquilibres dans ton corps hormonal ou métabolique ou peu importe quoi. Fait que c'est là que je voulais en venir. Fait que j'en reviens à mon sujet. La patate blanche cuite au four, entre 85 et 90 indices glycémiques. Ce qui veut dire que l'énergie rentre très rapidement. En 1 heure, c'est fini. 1 heure et demie. Puis après ça, tu as un gros crash. Fait que là, tu es plus propice à avoir des rages alimentaires, à devoir reconsommer parce que l'énergie n'est plus là. Elle vient de te faire un gros crash. La patate douce, par contre, ça c'est intéressant. Puis souvent, dans des stratégies alimentaires, les gens, les coachs vont plus recommander de la patate douce que de la patate blanche. Puis je m'en fais poser la question, pourquoi? La patate douce contient beaucoup plus de fibres à l'intérieur que la patate blanche. Et on va en parler des fibres tantôt. Mais la patate blanche prend 1 à 2 heures à assimiler. La patate douce, à cause de son indice glycémique, va prendre environ 3 à 4 heures d'assimilation. Ce qui veut dire que si toi, au dîner, tu manges de la patate blanche avec ton poulet, etc., rendu, admettons, de midi, 1 heure, 2 heures, tu as principalement un gros crash énergétique, là, où tu vas avoir une glycémie plus faible. Ça se peut que tu sois tenté de vouloir aller piger dans un plat de bonbons de chocolat. Si tu manges ta patate douce, par contre, puis qu'il y a un taux d'assimilation de 4 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu arrives à ta collation, tu as réussi à être soutenu. Tu as une belle énergie constante, beaucoup plus. C'est ça qui fait la différence. Fait que quand tu es toujours dans de la mauvaise gestion glycémique à cause des indices glycémiques trop hauts, ben, puis que tu n'es pas sportif, ben c'est là que ça peut venir à créer des désordres de ce type-là.
Tu prends ton exemple, oui, mais je vais dire un gros mais, parce que si, parce que tu sais, qui va manger une patate blanche tout seul, là-même?
Ça arrive pas pour dîner.
Oui. Ah, mais jamais une patate blanche ou une patate douce, de même, tu vas manger toute affaire. C'est là le point. Fait que qu'est-ce que je vais manger, mettons, avec ma patate blanche? Exemple que c'est de la patate blanche. Puis j'aime mieux les patates douces en plus, fait que tant mieux. Mais je vais avoir de la viande ou n'importe quelle protéine, mais ça va être principalement de la viande. Puis je vais avoir des légumes. Fait que là, dans mes légumes, il y a des fibres qui viennent ralentir le spike d'insuline. Ma protéine couplée avec les glucides ralentit le spike d'insuline. Fait qu'il va y avoir une différence, c'est mieux de prioriser une patate douce, définitivement, pour avoir plus d'énergie longtemps. Mais reste que, dépendamment avec quoi tu le couples, là, ça va faire une différence.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, la patate douce va avoir un taux d'assimilation vraiment, vraiment plus tranquillement. Si on regarde en tant que tel l'indice glycémique approximatif de chacun des aliments, tu sais, c'est toujours approximatif parce que si tu fais cuire une patate plus longtemps, au four, vapeur, etc., l'indice glycémique change tout le temps. Parce que l'amidon à l'intérieur, puis les glucides en tant que tel, la molécule en tout cas sera pas pareille. Patate blanche, environ 85 à 90 selon la cuisson. Patate douce, 45 d'indice glycémique. On peut voir que c'est un meilleur choix principalement. Le riz basmati, entre 50 et 60, dépendamment du type de cuisson et de la façon qui est procédée. Le riz blanc Uncle Ben Minute, ça c'est intéressant parce que le monde se dit, ça va être rapide, 90. C'est un indice glycémique extrêmement haut, voire c'est quasiment le même type d'indice glycémique que du sucre blanc pur. C'est con, mais c'est fou comment ça rentre très rapidement. Fait que, tu sais, mettons, on va dire, la personne qui se prépare pour un match de soccer dans 3-4 heures, riz basmati peut être une bonne option. On veut de l'énergie sur le long terme. La personne qui va s'entraîner là, riz blanc, Uncle Ben Minute, pourrait être très, 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 très pratique. Je savais même pas ça, 90, c'est très intense. Pois chiche, 35, très riche en fibres, ça diminue l'indice glycémique, je vais en parler tantôt. Les bananes, si c'est très mûr, 55 à 60. Les bleuets, 25. Les framboises, 30. Les fraises, 40 à peu près. Fait que ça monte de plus en plus, mais les bleuets, c'est vraiment le petit fruit avec le moins d'indice glycémique. Ça veut dire que l'énergie, ça ne vous fera pas un crash énergétique. La pomme, environ 40. Le melon d'eau, 70 à 80, dépendamment du niveau de sucre et tout. Le sucre blanc, ce qui est intéressant... le sucre blanc, c'est un 100 d'indice glycémique. Les dattes entières, 55. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que le fructose a un indice glycémique plus faible, en tout cas, de ce que j'ai pu lire, a un indice glycémique beaucoup plus faible que le glucose parce qu'il est majoritairement métabolisé au niveau du foie. Fait que l'indice glycémique ne sera pas perçu de la même façon et l'énergie n'est pas distribuée de la même façon dans le corps. Mais le glucose a un indice glycémique de 100 et c'est ça sur lequel, on va dire, la science alimentaire se base pour structurer l'indice glycémique. La farine blanche, 85 d'indice glycémique. Ça veut dire que quand tu te fais un muffin à farine blanche, l'énergie est vraiment moins bien gérée dans ton corps que si tu y vas avec une farine d'avoine, 45. Farine d'amande, 10 d'indice glycémique. Et farine de blé entier, 60-65. Fait qu'on n'est pas loin entre le blanc et la farine de blé entier. Blé entier est un meilleur choix. Farine d'avoine est un encore, selon moi, meilleur choix. Et si tu regardes la farine d'amande, c'est celle-là qui a l'indice glycémique le plus faible. Fait que c'est super intéressant ça. Puis quand on regarde aussi stevia, sucralose, aspartame, juste pour le citer, indice glycémique zéro. Et ça a été prouvé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun impact sur la glycémie. Il va y avoir des impacts sur les rages alimentaires et l'équilibre au niveau des neurotransmetteurs, la façon dont comment tu vas ressentir, tu sais, dans le fond, dans ta gestion émotionnelle au sucre. C'est là que ça va plus jouer un peu. Le deuxième gros point, parce que le premier, c'était l'indice glycémique, le deuxième gros point, c'est le rôle des fibres dans la gestion de l'appétit. Les glucides riches en fibres, comme tantôt tu as cité, manger avec des légumes ou des choses de même pis tout, tels que les légumes, certains fruits à pelure, ralentissent la digestion et stabilisent l'appétit, évitant l'excès alimentaire. Pourquoi? Parce que littéralement, le rôle des fibres, c'est de, principalement les fibres solubles, c'est de faire en sorte qu'on va venir créer, dans le fond, la fibre se joint à ton bol alimentaire. Fait que tu manges, exemple, du poulet avec une patate blanche, puis là, tu manges une tonne de brocoli puis plein de légumes bourrés en fibres. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu enlèves les légumes, tu vas avoir l'indice glycémique de ta patate et tu vas avoir l'indice glycémique principalement de ça. Puis ça va se mélanger avec ton poulet puis ça va faire un bol. Puis ça va peut-être être assimilé, on va dire, 2 heures, 3 heures. Si tu rajoutes une tonne de légumes avec ça, qui contiennent beaucoup de fibres, les fibres à l'intérieur solubles, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont absorber l'eau, faire gonfler le contenu, envelopper les molécules de glucose, et le corps va percevoir ce glucide-là à l'intérieur de son organisme, dans l'intestin, dans l'estomac et tout, beaucoup plus tranquillement. Ce qui fait en sorte que ça va tempérer, ça va diminuer l'indice glycémique des aliments. Fait que c'est super intéressant, ça. Fait que, tu sais, on regarde, admettons, principalement les gros aliments riches en fibres, l'avoine, les légumineuses, les fruits à pelure. Souvent, qu'est-ce que je conseille à mes clients, c'est lorsqu'ils mangent la patate a un indice glycémique de 85, puis by the way, la patate que j'avais ciblée ici, c'était une patate sans pelure. Mais si tu introduis la pelure, tu vas peut-être aller diminuer l'indice glycémique d'un 10, 15, voire 20, 25, parce que c'est des fibres, principalement. Fait que c'est super intéressant de prendre en compte l'impact des fibres sur le ralentissement de la digestion et faciliter le fait que ton énergie va être perçue plus tranquillement, donc tu as moins de gros high énergétiques et de crash par la suite. Fait que c'est principalement les pelures. Pensez tout le temps à ça, mais tu sais, les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre, ils ont une coquille autour qui est une fibre. Tu vas avoir la pomme, la poire asiatique, la pêche qui sont couverts de fibres. J'ai des clients des fois qui me disent, à place de manger une pomme, parce qu'ils ont, exemple, je veux atteindre un 30 grammes de fibres dans leur alimentation aux femmes, puis ils me disent, à place de prendre la pomme, est-ce que je peux juste prendre la compote? Là, je leur dis, selon toi, dedans la pomme, qu'est-ce qui est réellement intéressant? Dans sa condition à elle, avec sa structure, c'est les fibres. Dans la compote, un, tu as juste la quantité de sucre. De deux, ça a tellement été chauffé pour être stérilisé puis tout le kit que fort probable que tu as perdu 75 % des vitamines. Et de trois, tu n'as absolument aucune fibre. Ça veut dire que tout ce qui te reste, c'est le fructose et le glucose de ces molécules-là. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Fait que prends ta pomme avec la pelure, définitivement, tu vas avoir bien plus d'effet puis ça va ralentir le bol digestif et tout. Fait que... juste à dire aussi de même, patate blanche cuite au four, il y a environ 2 grammes de fibres et la patate douce, il y a entre 4 et 6 grammes de fibres. Ça fait toute la différence au niveau de l'absorption. Et le troisième gros point du pourquoi ça amène à satiété et que c'est à ne pas avoir peur, c'est, je l'explique beaucoup à mes clients, les cascades hormonales. Parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de fluctuations hormonales à l'intérieur du corps et l'alimentation, il y a des gros liens interreliés à ça. Si tu as des carences en certains oligo-éléments, vitamines, minéraux, etc., il peut y avoir des carences, exemple en zinc, et là, la personne peut avoir une diminution au niveau de la testostérone ou peut aromatiser un peu plus. Il y a plein de différents concepts comme ça. Je vais vous expliquer 3 des 12 cascades hormonales complètes que j'ai décelées. Les 3 principales que j'aime aller réguler chez la femme et l'homme qui viennent me voir en clinique. La première, c'est la cascade hormonale entre la leptine et la gréline. Qu'est-ce qu'une cascade hormonale, by the way? Une cascade hormonale, c'est le fait que chaque hormone dans votre organisme est sur un balancier antagoniste avec une autre hormone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis un homme. Naturellement, je devrais produire beaucoup de testostérone et peu d'estrogène. Et si, exemple, dans l'effet opposé, pendant que je me faisais créer dans un ventre, ben je produisais beaucoup d'estrogène et moins de testostérone, probablement que j'aurais été de sexe féminin. Naturellement, il y a toujours, on va dire, si la testostérone est haute, l'estrogène va être basse. Les hormones, c'est toujours ça que ça fonctionne. C'est s'il y en a une qui se contracte, il y en a une autre qui va se rétracter, en général. Si on regarde en tant que tel la leptine et la gréline, lorsque tu as faim, tu n'es pas à satiété. Et lorsque tu arrives à satiété, l'hormone de la satiété, l'hormone de la faim n'est pas sécrétée. Fait que c'est toujours, toujours un balancier comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 hormones que souvent mes clients, clientes viennent me voir qui n'ont pas le contrôle, mais qui n'ont même pas connaissance qu'ils sont sur un balancier. On n'apprend pas ça à l'école. L'insuline et le cortisol. L'hormone de la gestion de la glycémie, du sucre, et le cortisol, qui est l'hormone du stress, sont sur un balancier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, littéralement, lorsqu'une personne, exemple, vit du stress intense dans sa vie, du gros, gros stress, elle se chicane avec son conjoint, est dans le bois, elle rencontre un grizzly, bien, naturellement, son corps va élever le cortisol, le moyen d'autodéfense. Il va commencer à augmenter principalement tout ce qui produit, on va dire, la libération du glucose. Et naturellement, la glycémie va venir à s'affaisser parce que le cortisol est très, très haut. De l'autre côté, tu libères du sucre pour te défendre contre le grizzly. Fait que là, la glycémie est en train de s'affaisser. L'insuline est trop produite. Fait que naturellement, si tu vis du stress constant, mais que tu manges jamais de glucides, et ça, c'est là le point important. Si tu ne manges jamais de glucides, le corps n'a pas, on va dire, l'élévation de la glycémie pour venir restabiliser le cortisol. Fait que souvent, les personnes qui viennent me voir, qui m'appellent au téléphone puis qui me disent « J'aimerais ça venir travailler avec toi pour gérer mes rages alimentaires, j'en ai des tonnes. » je me rends compte à quel point ils sont déstabilisés. Un, ils vivent trop de stress. Deux, la gestion des glucides est extrêmement mauvaise, elle n'est pas bien faite. En soi, où ils ont peur puis ils n'en mangent pas en tout. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ils vivent du stress, ils vivent du stress, ils vivent du stress. Ils arrivent à la fin de la journée, ils ont le stress cut-off, ils ont l'insuline à terre complètement, la glycémie à terre complètement. Et là, le soir, ils tombent dans les chips, ils tombent dans la crème glacée, ils tombent dans la malbouffe. Pourquoi? Parce que c'est une balance, c'est quelque chose qui doit se réguler l'un avec l'autre. Et c'est très, très, très intéressant. Lorsqu'une personne vit énormément de stress et que tu lui donnes une alimentation très riche en lipides, son niveau de stress, en général, je trouve qu'il n'est pas très bien géré, voire ça ne s'améliore pas au niveau du cortisol et tout. Mais lorsque tu y introduis une alimentation riche en glucides, hein, tabarouette, je me suis rendu compte, un, j'ai une énergie plus constante, ça va mieux. Deux, je trouve que je gère vraiment mieux mon stress. Puis trois, le corps commence à réagir parce qu'il est moins impacté par le facteur stress. Je trouve ça super intéressant. Ils ont moins de rage, ils ont moins de tout, ils ont moins de ci, ça. Fait que c'est super intéressant, ça. Mais les cascades hormonales, ça fait quand même un gros rôle à travers tout ça. Fait que c'était le troisième gros point à travers tout ça. On en reparlera un moment donné de testostérone, estrogène. Puis justement, je pense qu'on a un sujet sur les cascades hormonales comme ça qui va venir plus tard. Mais prenez en compte que les glucides, ils ont quand même énormément de bienfaits. Puis au niveau métabolique, il peut avoir plein de beaux avantages. Et lorsqu'on tombe dans le keto, bien souvent, les personnes vont juste inhiber toute la cochonnerie qu'ils mangeaient auparavant, qui était très riche en sucre transformé et tout. Fait que c'est ça. C'est toujours une question de déficit calorique, mais c'est une question d'équilibre à travers tout ça. Puis quand tu coupes keto, il y a plein de facteurs physiologiques comme la rétention d'eau, comme tout qui va partir. Fait que c'est ça, en tout cas. Fait que c'est ce qui pas mal conclut mon sujet. T'avais-tu des points à rajouter là-dessus?
Le soir, moi, je mets tout le temps des glucides dans mes stratégies, puis pour plusieurs raisons. De un, pour aider le sommeil puis réduire le stress, mais de deux, parce que aussi beaucoup de personnes ont de la misère à pas manger de glucides pour souper. Ouais. Combien de personnes vont dire « je vais manger une salade », ben ça arrive, là, mais mettons « je vais manger un sauté de légumes », c'est souvent il y a des pâtes, il y a des séries, des patates, des affaires de même, un burger que tu vas te faire l'été. Fait que c'est super intéressant de les introduire le soir.
Absolument, ça amène un effet sédatif. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est que ça diminue ton cortisol. Fait que pour la gestion des rages alimentaires, c'est formidable de faire ça, de juste introduire un peu de glucides. Faut pas avoir peur de ça. Si, puis tu sais, je pense que c'est dans le dernier podcast, j'en avais parlé un peu des neurotypes, mais il y avait 5 neurotypes, puis sur 5 neurotypes, il y en avait 3 qui devraient manger des glucides régulièrement parce que c'est des caractères un peu plus stressés, des personnes... Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui devrait couper les glucides, voire on devrait manger un équilibre, protéines, glucides et lipides, puis on devrait pas restreindre un groupe alimentaire parce qu'il y a plein de bons nutriments à l'intérieur de différents types de glucides, mais c'est ça. Mais de couper les cochonneries transformées, ça, je pense que n'importe quel spécialiste va être capable de dire « c'est une bonne idée ». Fait que, tu sais, on s'entend, quand on parle de glucides complexes, on parle pas de Pop-Tart licorne, nos fameuses Pop-Tart licorne. On parle d'aliments naturels qui proviennent de la terre, que tu es capable de voir pousser ou bien peu importe quoi. Je te laisse embarquer dans le prochain sujet, Sam.
Oui, on entend souvent parler de l'insuline avec les glucides. On parle souvent de cette hormone-là, qui est l'hormone qui te permet d'assimiler les sucres. Puis beaucoup de personnes vont, encore une fois, quand on parle de démoniser les glucides, vont faire un lien avec l'insuline, disant que si l'insuline est élevée, tu peux pas perdre du gras. Et là, le but, c'est de démystifier ce mythe-là, OK? Les failles du modèle glucide-insuline, je vais donner 3 points, je vais les lire, ça va être plus précis, OK? Si les glucides étaient vraiment la cause de l'obésité et non l'excès calorique, les diètes faibles en glucides auraient un avantage évident sur les diètes riches en glucides, même à calories égales. De toute façon, on l'a dit, les études démontrent toutes clairement qu'avec des calories et protéines identiques ou égales, la proportion de glucides ou de lipides ne fait pas de différence sur la perte de gras. Fait que déjà en partant, s'il y avait un lien avec ça, ben, automatiquement, il y aurait un avantage aux diètes qui ont moins de lipides, mais ce n'est pas le cas selon toutes les études. Deuxièmement, le modèle glucide-insuline prétend que l'insuline, entre guillemets, piège les graisses dans les cellules. Pourtant, ça, c'est fucking intéressant. Malgré des niveaux élevés d'insuline, les personnes obèses ou diabétiques ont aussi des triglycérides qui sont très élevés dans le sang. Ce qui veut dire que si réellement l'insuline piégeait le gras dans les cellules, quand s'il faisait une prise de sang pour des personnes obèses ou diabétiques, il n'y aurait pas de triglycérides dans le sang. Pourtant, c'est très élevé. Mm-hmm. Fait que réellement, l'insuline ne piège pas les graisses dans les cellules. Et troisièmement, le modèle glucide-insuline part du principe que l'insuline, encore une fois entre guillemets, bloque la lipolyse. La lipolyse, c'est un peu le contraire de la lipogenèse, là. C'est la dégradation de graisse en source d'énergie au lieu de la création. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que l'insuline bloque la lipolyse, donc tu ne peux pas nécessairement dégrader de la graisse si ton insuline est élevée, Mais ce qui est intéressant, c'est que ça dit, en théorie, si la lipolyse est bloquée, le corps ne peut plus puiser dans ses réserves de graisse pour l'énergie, ce qui devrait déclencher deux réactions. Et checkez ça. Si réellement c'était le cas, un, on aurait plus faim. Parce que si c'était le cas puis que la lipolyse ne faisait pas la dégradation, le corps chercherait à trouver d'autres sources d'énergie à l'extérieur parce qu'on n'aurait pas d'énergie dans le sang, ce qui pousserait les personnes à manger plus. Et les études démontrent le contraire. Deuxièmement, la prise de graisse. Puisque les graisses resteraient « piégées » entre guillemets dans les cellules adipeuses, le modèle prévoit que plus de gras serait stocké. Cependant, les études démontrent que bloquer la lipolyse, ce que je mentionnais, ne provoque ni la faim ni la prise de poids, remettant en question cette hypothèse. Fait qu'en gros, c'est toujours de comprendre qu'on entend souvent le concept que si l'insuline est très élevée, on ne peut pas perdre de gras parce que ça piège, ça l'empêche la lipolyse. Mais c'est pas vrai parce que les études démystifient toujours ça. Même si l'insuline est élevée, un déficit calorique entraîne une perte de poids quand même. Fait que si tu disais la seule façon de perdre du gras est le fait que mon insuline va être basse ou le fait de réduire l'insuline, ben réellement, si tu mangeais beaucoup de glucides et que tu avais quand même un déficit calorique, tu ne perdrais pas de poids. Et les études démontrent clairement que si tu as un déficit calorique, même si ton insuline est élevée et que tu manges beaucoup de glucides, tu vas perdre du poids quand même. Fait que c'est fucking intéressant de savoir ça parce que la plupart des gens croient le contraire. Fait que c'est de démystifier ce mythe-là.
Ouais.
Tu voulais parler de du marketing puis du fait d'avoir peur des carbs?
En fait, la carbophobie.
Ouais.
C'est, en fait, tu sais, c'est... Je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais tu sais, le système profite tout le temps des derniers trends possibles puis il check les... En fait, c'est pas compliqué. Comment ça fonctionne, c'est tu t'en vas littéralement sur Google Trends, tu checks c'est quoi que les gens regardent. Oh, le keto est en hausse. Automatiquement, le marketing explose, ça devient des milliards de dollars d'industrie. Fait que tu sais, en ce moment, les gens ont eu peur, puis la science, ils ont bombardé plusieurs, on va dire, documents que les glucides étaient très problématiques. Fait que là, les lipides ont commencé à augmenter, mais là, il va y avoir d'autres désordres parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on est du point A, du point blanc au point noir, il n'y a pas d'équilibre dans tout ça. Fait qu'on est toujours dans le déséquilibre, puis au final, c'est con à dire, mais c'est les mêmes autorités-là. C'est pas eux autres qui disent déficit calorique. C'est pas eux autres qui recommandent à tout le monde. Vous, ils recommandent 2000 calories, hommes et femmes. Mais la madame.
Ouais, c'est parce qu'ils doivent. Ils doivent avoir une recommandation de quelque chose.
Mais le problème, c'est que la santé, tu ne peux pas normaliser ça. Tu ne peux pas. Tu sais, littéralement, moi, le système, si je voulais vraiment améliorer ça, il y aurait des consultations, il y aurait de l'éducation à faire individuelle, puis tout le monde doit se prendre responsable. Là. Mais c'est pas le cas. On essaie de normaliser quelque chose qui est extraordinairement complexe. Fait que, tu sais, on se retrouve dans une société qui se fait bouffer, on va dire, par des trending. Puis, tu sais, autant dans 10 ans, j'allais dire dans 10 ans. Maintenant, il a commencé à avoir du monde qui se sont dit « Ok, moi, je tombe carnivore. Je mange de la viande, puis encore là, de la viande crue. » Puis là, ils ont commencé à tout couper, les légumes, les glucides, et majoritairement, c'est ça parce qu'il y a des lipides dans la viande.
En fibres à côté, man.
Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui commencent à montrer une science très peu développée, on va dire, parce que cette science-là n'a pas 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans de recul face à ça. Mais oups, ce serait bon pour éviter des cancers, du côlon et tout. Mais il y a tellement d'antibiotiques, il y a tellement de cochonneries là-dedans. Je suis sûr qu'ils vont développer d'autres possibilités de problèmes. Puis ils vont avoir tellement de carences. Puis tout. À un moment donné, il y a eu la force du véganisme. Après ça, il y a eu la force du keto. Après ça, il y a eu la force du jeûne. Après ça, il y a eu la force méditerranéenne. Après ça, il y a eu la force. Il y a tout le temps des trending. Et les gens embarquent à l'intérieur de ça, mais ils ne comprennent pas le sens premier qui mange trop. C'est aussi simple que ça.
Ce que tu fais comme stratégie, c'est parce que
tu manges trop. Tu prends du poids, c'est simple de même, tu ne dépenses pas assez, tu manges trop. Et le but premier, c'est pas de manger moins, bouger plus. C'est de manger suffisamment par rapport à ton corps et de bouger plus.
Manger mieux.
Manger mieux. Parce que anciennement, on mourait parce qu'on mangeait pas assez. Puis qu'on avait pas. Écoute, il y avait le scorbut. Fait qu'on mangeait pas assez de vitamine C. À cette heure, je pense que tout le monde a au moins 6000% de vitamine C. Tu prends une capsule, puis c'est fini.
Tu sais, tantôt, tu disais, mettons, avant, il disait que fallait que tu coupes les lipides. Ouais. Après ça, tu t'es rendu compte, là, c'était le contraire. Là, ouais. Mais tu sais, mettons, moi, si je recule, là, on va dire, je suis un chiffron, on va dire 2 ans,
ouais.
Ben j'étais un des premiers à penser que l'insuline, fallait que tu droppes l'insuline. Jusqu'à temps que je me rende compte, puis là, je vois quelque chose, je fasse comme, ben non, tu sais, c'est moi, j'ai toujours pensé que c'était ça. Puis là, je vois quelque chose, je suis comme, ben, il doit y avoir une erreur, tu sais. Puis il y a quelque chose d'autre qui sort, puis là, ben non, j'ai toujours pensé ça, c'est sûr, c'est de la merde ce qu'ils viennent de faire. Puis là, quand ça fait 18 fois en ligne que tu commences à avoir des études qui te prouvent ça, puis que tu le fais même avec des clients, tu te rends compte que ça fonctionne pareil, même si la personne mange des toasts, tu fais comme, ben là, à un moment donné, c'est parce qu'il commencerait être temps que je change. Mais tu sais, c'est pas une question de dire « Ah, je fais exprès », c'est que la science, elle évolue, et c'est ça, nous autres, qu'on essaie d'apporter, de dire « Ça l'a changé ». Puis ça se peut, puis là, je dis ça de même, j'hypothèse, on sait pas, mais ça se peut que dans 22 ans, il y ait quelque chose qui sorte comme quoi que manger tant de grammes de telle affaire, c'est pas l'idéal, puis qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on propage. Mais quand ça va être, entre guillemets, démystifié 20 quelques fois, 30 fois, 40 fois en ligne, qui vont dire qu'il faut pas que tu manges trop de grammes de ce qu'on a dit, on va refaire un podcast disant réellement c'est rendu ça. Mais tu sais, c'est la science, elle évolue. On se fie sur qu'est-ce qui se passe, sur ce qu'on voit, et on s'adapte encore en fonction.
En fait, c'est pas compliqué. Mange qui provient de la nature, mange de façon équilibrée, tu devrais être très bien. Puis si tu manges tes protéines, tes glucides et tes lipides, en fait, si tu préfères manger des glucides, moi, personnellement, je bouge beaucoup de ce temps-ci. Des fois, je m'entraîne deux fois par jour. Fait que les glucides sont vraiment bons. Ils m'amènent à satiété. J'adore ça. Puis ça me permet d'atteindre des fibres. Fait que même à travers toute la consommation alimentaire que je mange, le 2800 à 3000 calories, ben je mange des fibres. Ça me permet d'avoir une bonne digestion au travers de ça. Mais où je veux en venir, avec l'intelligence artificielle qui est omniprésente, les informations se propagent extrêmement rapidement. Et d'ici peut-être même pas les 10 prochaines années, on va avoir vraiment fait fois 100 au niveau, probablement, même plus que fois 100. Ça va être exponentiel, ça va être des milliers de fois plus avancé sur la compréhension du corps, la façon comment on devrait travailler avec nos hormones, notre alimentation et tout. Mais la science va quand même rester la science. Calorie in, puis je vais toujours continuer à dire calorie in, calorie out, c'est ce qui amène à une perte de poids. Ayez pas peur des glucides. Puis tu sais, la carbophobie, c'est simple. Puis je vais vous expliquer une petite situation parce qu'on est deux opposés complètement. Puis tu sais, pendant longtemps, on avait utilisé, je me souviens, c'était le terme qu'on utilisait, insulino-dépendant et insulino-résistant. Puis ce qui est intéressant, c'est que au final, c'est pas nécessairement ça. C'est juste le fait que si toi, mettons, on va dire, tu manges des glucides, puis que, mettons, là, on fait deux jeûnes. Un jeûne chacun individuel. 24 heures chacun, puis on vide nos réserves, on s'en va faire beaucoup de marche à travers tout ça. Puis là, on tombe avec nos réserves de glycogène à zéro. Peut-être que toi, tu vas avoir perdu 3 livres, peut-être que moi, je vais en avoir perdu 7. Parce que mon corps rétentionne plus d'eau, peut-être qu'il y a des plus grandes capacités de glycogène, je ne sais pas c'est quoi qui fait en sorte, j'inflamme peut-être plus aussi, dépendamment de certaines molécules, ou, comme on avait déjà parlé, peut-être les intolérances alimentaires. Il y a peut-être des molécules qui vont starter mon système inflammatoire un peu plus, mais il y a des différences quand même chez certaines personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font du keto, ou qui font une perte de poids, puis que là, hop, tombe dessus une structure alimentaire magique sur Internet, puis là, la structure alimentaire leur dit, vous allez tout couper les glucides, pain, pâte, patate. La madame, le premier mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle coupe la totalité des glucides, puis avant, elle en mangeait en fou, là, elle mangeait plein de cochonneries. Mais là, elle se ramasse à manger de la viande, des légumes, des petites soupes, des petits bouillons, des petits potages. That's it. Elle va tout couper ses glucides. Qu'est-ce qui risque de se passer? Elle va perdre sa rétention d'eau, inévitable, parce qu'elle va perdre du glycogène musculaire. Elle va vider les réserves de plus en plus au niveau du muscle et du foie. Avec ces rétentions, ce glycogène-là, il y a des grammes d'eau à l'intérieur, entre 3 et 6 grammes d'eau, dépendamment de ta composition corporelle et tout. Fait que la madame va peut-être aller flusher entre 3 et 10 livres d'eau minimum et de glycogène musculaire et d'énergie intracellulaire. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Hein, je suis donc bien fier, j'ai perdu du poids. Réellement, tu as juste perdu ton énergie intramusculaire. C'est ça qui s'est passé avec l'eau. Fait que souvent, les personnes pensent que le keto va les amener à perdre du poids plus rapidement. Oui, si vous coupez les cochonneries que vous mangez et que vous tombez en déficit calorique, et le poids majoritairement que vous allez perdre, c'est de l'eau et du glycogène. Puis dès l'instant que vous allez réintroduire une patate, un pain, peu importe quoi, et que vos réserves vont se remplir de 200-300 grammes, bien, ça se peut que vous repreniez 4, 5, 6 livres d'eau avec. Fait que c'est ça les grosses fluctuations au niveau du poids. Lorsqu'on coupe les glucides puis qu'on tombe keto ou très riche en lipides et tout, fait que il va avoir des fluctuations, puis c'est juste d'amener les gens dans la compréhension de ces choses-là, parce que réellement t'as probablement pas perdu de gros autour de ça, sauf si
encore si quelqu'un fait du keto. En fait, si quelqu'un me dit moi manger, parce que c'est déjà arrivé là, mettons manger du riz, des patates, j'aime pas ça, je mange tout le temps des légumes, la viande, puis je mange bien des huiles puis des noix. Mais si, est-ce que t'aimes ça faire ça? Ouais, j'aime vraiment ça. Je mange jamais de gâteau, je vais pas au resto. Ben, go for it. Puis l'affaire, c'est que si tu fais ça, puis tu crées un déficit calorique, t'es en keto, tu perds du poids. Fait que c'est pas nécessairement le fait que tu sois en keto, mais si t'aimes ça light et ça fait en sorte que tu peux le respecter, que ça t'amène à créer un déficit calorique et que tu veux perdre du poids avec ça, go for
quand it. Quand on embarque en nutrithérapie puis en des aspects très spécifiques et thérapeutiques comme ça, parce que tu sais, il y a la perte de poids. Fait que les glucides pour la perte de poids, Il n'y a pas d'impact. C'est calorie in, calorie out. Il y a l'aspect alimentation fonctionnelle et thérapeutique. Une personne qui a un trouble pathologique, ben oui, il y a des gestions métaboliques comme ça à faire, comme les glucides calculés et toute la kit. Il peut y avoir des effets inflammatoires, il peut y avoir des produits chimiques, il peut y avoir plus de Roundup à l'intérieur. Fait que c'est d'être capable de dissocier. Là, aujourd'hui, on a plus d'émissions au niveau de la perte de poids que de la santé overall. Mais tu sais, moi, mon avis, puis je pense qu'il est pas mal pareil que le tien, peut-être avec quelques petites différences. Calorie in, calorie out, c'est ce qui t'amène la perte de poids que tu manges glucides ou lipides. Les protéines à part égale tout le temps. Il n'y a pas de différence. Puis ça, moi, je l'ai prouvé à des centaines et milliers de reprises. Tu as fait la même affaire. Puis la science le prouve aussi. Ça, ça marche. Au niveau de l'aspect santé, au niveau de l'aspect désordre métabolique, des personnes qui ont, on va dire, des douleurs chroniques, des personnes qui ont, exemple, qui sont, je sais pas moi, ils ont une tumeur, ils ont des problématiques, puis qui veulent amener des effets thérapeutiques à l'alimentation. Ben là, on est dans de la grosse spécification. Et oui, là, c'est une autre étape complètement. Là.
C'est différent.
C'est ça. Je voulais juste débunker ça parce que je veux pas recevoir dans les commentaires quelqu'un qui dit « Ouais, mais là, telle affaire est telle. » Non, c'est juste, on démystifie.
Mais le titre du podcast, je sais pas ça va être quoi encore, il est pas déterminé, mais nous, mettons, pour l'instant, c'est les glucides vont-ils prendre du poids plus que nécessairement d'autres macronutriments?
Non.
La réponse, c'est non. L'objectif, c'était de parler nécessairement de la prise de poids qui était plus grande à consommer des glucides. Puis la réponse, c'est non.
C'est non.
Fait absolument. Que, tu sais, dans le fond, bon, en fait, je close le podcast en disant ça, là, 55. Je voulais la garder pour la fin, mais je trouve ça intéressant. Tu sais, on dit la science a démontré. Puis quand on parle de science, là, c'est qu'elle avait fait une méta-analyse de 32 études. Okay? Une méta-analyse, je l'avais dit dans un autre podcast, c'est une étude d'études. Fait que c'est big là, comme étude. En 2017. Puis la méta-analyse avait conclu qu'il n'existe aucune différence significative entre les régimes faibles en glucides et faibles en graisse pour la perte de poids lorsqu'on contrôle les calories et protéines. Et en passant, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plein d'études, en fait 32 études, qui parlaient de qu'est-ce qui fait prendre le plus de poids entre les glucides et les lipides. Et l'étude de ces 32 études-là a déterminé comme cause finale que peu importe qu'est-ce qui se passe, si ta protéine égale et que les calories sont égales, la prise de glucides ou de lipides ne changera rien sur la perte de poids ou sur la prise de poids dans l'autre côté. Fait qu'en fin de compte, c'est le bilan calorique toujours qui fait la différence, tu l'as dit. Puis, tu sais, je vais revenir à... c'est quoi tu disais à la fin? Tu disais le... C'était dit quoi, puis je l'ai oublié. Tu parlais de le côté hormonal. C'est quoi tu disais à la fin? Juste avant que je parle de ça. J'avais un flash.
La cascade hormonale, la gestion glycémique...
Ah, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais tu sais, en gros, c'est pas grave, on close le podcast là-dessus. Puis tu sais, ce que je voulais dire, en fait, ce qu'on veut dire là-dedans, c'est arrêtez d'avoir peur. Puis faites en sorte d'en parler en votre entourage pour que le plus de personnes arrêtent d'avoir peur. Moi, j'avais eu une cliente à un moment donné qui était venue me voir. Puis j'ai rien contre ça, je vais la nommer parce que c'est une grosse compagnie. Idéal Protéines, ça dit quelque chose.
Ouais.
Puis tu sais, Idéal Protéines, c'est que tu montes vraiment ton apport en protéines. Puis en fait, c'est du keto, littéralement. Là. T'as pas de glucides, t'as pas de sucre. Puis ma cliente, je me rappelle, elle m'avait dit, elle aimait vraiment les bananes. Puis elle faisait Idéal Protéines. Puis elle avait coupé toutes les bananes. Puis j'étais comme, OK, mais pourquoi? En fait, je savais pas qu'elle faisait Idéal Protéines. Fait que je dis, pourquoi t'as fait ça? Elle dit, ben, je me sens embarqué dans quelque chose, Idéal Protéines. Fait que je dis, OK, tu peux le faire, c'est correct. Puis, ça t'amène une perte de poids, puis t'es plus en santé, puis t'es mieux, tu le quittes, go for
ça,
it.
C'est un régime.
Mais je dis, est-ce que t'aimes ça les bananes? Elle dit, ouais, mais pourquoi t'en manges pas? Parce que je fais ça. Je suis comme, OK, mais c'est pas la banane la problématique. C'est le fait que tu mangeais tellement de scrap, comme on disait tantôt. Fait que tu peux manger des bananes. T'sais, arrêtez de faire. Parce que l'affaire, c'est que des régimes, comme tu viens de dire, le bon terme, comme ça, tu l'as dit tantôt, démonisent, font peur. Et la peur face à ça, c'est ce qui fait en sorte qu'après ça, tu regardes ces réseaux sociaux, tu regardes sur Internet, puis tout le monde parle des pains, pâtes, patates, fruits, puis ils ont peur de ça.
Parce mais que là, en ce moment, le trending est là, puis les gens...
Ça sera plus ça, entendez-vous.
Les gens sont dans la désinformation complètement. Parce que, tu sais, au final, la dernière fois, j'ai eu un appel téléphonique avec un de mes clients actuels, puis, tu sais, il avait vu une publicité passer, puis un moment, il est tombé dessus un podcast, puis là, il m'a dit, écoute, moi, j'ai appelé 4 coachs, puis t'es le 4e que j'appelle. Puis quand j'ai écouté votre podcast, vous êtes le seul des 4 coachs qui a clairement juste dit une seule chose. La perte de poids, c'est calorie in, calorie out. Puis s'il y a une chose que je sais, c'est ça. Fait qu'il a dit, moi, je veux juste le gros bon sens. Je veux réussir à perdre du poids. Amenez-moi une structure qui va m'amener à me faire du plaisir, que je vais être capable de faire sur le long terme puis que ça s'adapte à ma famille. Puis faites juste en sorte que je sois en déficit calorique.
Ça aussi, tu viens de dire quelque chose de fort qui s'adapte à ma famille. Si t'es tout seul... Je niaise, n'importe quoi, mais t'es tout seul dans un sous-sol, tu parles jamais à personne, tout ce que tu fais, c'est manger tes affaires. Ça se peut que ce soit facile de pas manger de glucides. Si t'as une famille, des enfants, t'as des amis, tu vas au resto, c'est ta fête, c'est Noël, c'est l'Halloween littéralement hier.
Ouais.
tu m'as dit que t'as mangé un beau, un bon
hey,
son.
J'ai mangé un son, ça faisait longtemps. Fait que
ça fait partie de la vie.
C'est dégueulasse.
Fait que est-ce que t'es capable de le maintenir ton keto pour le restant de ta vie?
Ah non.
La plupart du temps, c'est non, la réponse.
Hey, hier,
je sais ce que j'allais dire en passant. Vas-y. Juste avant que tu partes, puis tu finiras, en fait,
j'allais parler de ça, c'est interminable. C'est pas important.
Ben, c'est juste peut-être drôle. Tu disais qu'il y a le côté hormonal à ça, puis c'est ça, je viens d'avoir un flash. C'est vrai, je suis 100% d'accord. L'affaire qui est intéressante, c'est que, mettons, on parle au niveau de tout ce qui est science de la perte de poids. Là. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les bienfaits au niveau de la santé. Mettons, on prend quelqu'un qui est en surpoids, évidemment, on parle de la perte de poids. Quelqu'un qui est en surpoids, un bon surpoids. La perte de poids est la chose qui va amener cette personne-là le plus en santé, absolument, indépendamment de peu importe quoi. Mmh. Parce que si la personne, oui, elle a un index glycémique plus élevé, mais qu'elle perd 40 livres, elle va être 100 fois plus en forme, ou en, pas en forme, en santé, oui, en forme, qu'elle était avant de perdre son 40 livres, qu'elle doit perdre. Je te parle pas nécessairement d'études pour du fitness. Fait que si la personne, moi, mettons, ma mentalité face à ça, c'est de dire, est-ce que manger une toast le matin fait élever plus la glycémie qu'une poignée de noix? Ouais. OK. Si je te mets des noix, est-ce que tu vas être capable de le manger? Oui. Pendant combien de temps? Après 2 semaines, mais t'es écœuré. Si tu mets une toast, mettons, elle me dit ça, la personne, tu mets une toast pour déjeuner, fais-moi faire ce que tu veux à l'extérieur de ça, je suis tout. C'est sûr, je te mets une toast, même si c'est peut-être pas l'idéal à 100%, parce que le fait que je te mette ta toast, ça va faire en sorte que c'est comme ton petit plaisir de ta vie, là. Ou peut-être ta coupe de vin, genre du vendredi soir, à moins que t'aies, on s'entend, là, on relativise, mais aie ton petit plaisir au pays de glucides. Qui, si ça t'amène une perte de poids de 60 livres, 50 livres, 40 livres, je le sais qu'indépendamment de peu importe quoi, tu vas être plus en santé.
La seule chose que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu soustrais dans son profil alimentaire 240 calories de noix. Et là, tu t'en vas introduire une tranche de pain à 100, puis 100 calories de beurre de noix, puis la personne est en déficit de 40 calories.
Ouais.
Et voilà.
Ouais. Puis elle va être capable de le maintenir plus longtemps.
Puis elle va être capable de le faire parce qu'elle a un point de plaisir. Fait que oui, c'est vraiment important. Fait que gang, pour faire un résumé dans tout ça, tu veux-tu, je le clôt.
Vas-y, go
for it. Faire un résumé dans tout ça, mangez vos protéines. C'est la base première, on va toujours continuer de dire ça. Tout le monde devrait manger en moyenne au minimum entre 25 et 35% de tout le rapport quotidien en calories, en protéines. Ben après ça, lipides ou glucides, il n'y a aucune différence face à ça. C'est prouvé par la science. Fait que, gang,
au niveau de la perte de poids.
Au niveau de la perte de poids, exactement. Pas au niveau de la santé.
Un athlète, c'est différent, mais là, on parle de perte de poids.
Exactement. Fait que, gang, si vous avez aimé le podcast, merci énormément d'avoir été présent. Laissez-nous un 5 étoiles. C'est tellement important pour nous. Prenez la peine d'aller nous mettre un 5 étoiles. Ça fait en sorte qu'à chaque semaine, on a de plus en plus de personnes qui nous écoutent. Puis nous, ça nous stimule à continuer de faire les podcasts. On se voit dans la prochaine épisode. S'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions, Phoenix, expert en gestion de poids durable, on est partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et etc. Fait que merci énormément d'avoir été présent, puis on se voit dans le prochain épisode.
Merci.